franceinter.fr. Le 7-9 sur France Inter.
Le directeur de l'Institut Montaigne est votre invité, Léa Salamé.
Bonjour Laurent Bigorgne.
Bonjour.
Vous connaissez la chanson des Clash, Should I Stay or Should I Go?
Oui.
C'est un peu à lire votre rapport sur les conséquences du référendum au Royaume-Uni. On a l'impression qu'on est un peu dans, comme dans la chanson. If I go, there will be trouble, and if I stay, it will be double. Si les Anglais partent, il y aura des problèmes. S'ils restent, ce sera encore pire. C'est un peu ça, non, votre rapport?
C'est un peu ça. Moi, je me place du point de vue non pas d'Angleterre, mais de l'Europe. Si les Anglais partent, le monde entier va penser que l'Europe va mal. Elle va mal. Mais le monde entier va penser qu'elle s'effrite, que ça y est, c'est le premier pas vers le délitement de quelque chose qu'on a mis presque un demi-siècle à construire. Si les Anglais restent, tout le monde se dira, mais au fond, tout va bien. On a évité le pire. Non, on n'a pas évité le pire.
Pas du tout.
Parce que l'accord qui a été négocié, en catimini d'ailleurs, parce que objectivement, on va interroger les Britanniques jeudi sur leur souhait de rester ou de partir. Mais on pourrait tout autant se dire que si cet accord est effectivement contraignant, il concerne aussi les autres pays européens.
Alors l'accord dont vous parlez,
cet accord
pour que ce
du
soit
19
très clair,
février,
voilà,
arraché par David Cameron au Conseil européen, est un accord qui pose de nombreux problèmes. Il pose des problèmes parce qu'il est ambigu, il pose des problèmes parce qu'il crée des précédents. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de pays, même des pays fondateurs de l'Union européenne, je pense notamment aux Pays-Bas, qui sont dans une logique de s'interroger sur ce qu'ils pourraient non pas sortir de l'Union, mais arracher à l'existence d'un commun, qui est aujourd'hui fondé par les pays de l'Union européenne, pour essayer de maximiser leur position au sein de cette construction, qui évidemment est une construction où on a à la fois des droits et des devoirs.
Donc ce que vous dites, c'est que globalement, bon, on a beaucoup parlé, on a beaucoup commenté ce qui pourrait être les conséquences du Brexit pour l'Europe, mais ce que vous dites, c'est que les conséquences du Remain, c'est-à-dire que si Cameron l'emporte, si les Anglais restent dans l'Europe, c'est presque pire, en fait, parce que on rentre dans une phase où on va avoir une Europe à la carte, où après les Anglais, comme Cameron a arraché un certain nombre de choses, notamment sur l'immigration en Angleterre, eh bien les Polonais, les Pays-Bas, demain diront, moi aussi,
les Tchèques, les Hongrois, je dirais évidemment pas que ce sera pire s'ils restent. Moi, je souhaite qu'ils restent authentiquement. Je dis juste que il y a aujourd'hui des tabous en France et en Allemagne, alors qu'on a toujours prêté à ces pays la qualité d'être le moteur de la construction européenne, des tabous qui ne sont pas levés.
Lesquels ?
Soyons simples, du côté français, on ne veut pas faire les réformes économiques qui rassureraient les pays du Nord et l'Allemagne. Du côté allemand, tant que les Français ne bougent pas, on ne veut pas aller vers cette union de solidarité avec des mécanismes qui permettraient d'injecter un peu d'argent pour repermettre du développement. Et donc il y a une situation double blocage, on se regarde un peu en chien de faïence de part et d'autre du Rhin, en se demandant mais qui va au fond freiner le premier, qui va accepter de faire un pas vers l'autre. Moi j'ai tendance à penser qu'il faut que ce soit la France qui le fasse aujourd'hui.
Alors vous êtes optimiste, si j'ose dire, dans votre rapport, en disant peut-être tout peut se jouer en 2017, comme il y a la présidentielle en France et les élections fédérales en Allemagne. Peut-être que justement chacun pourrait faire un pas et relancer cette idée européenne. Est-ce que vous rêvez pas un peu éveillé, Laurent Bigorgne?
Je suis d'un optimisme prudent, puisque je faisais partie de ceux qui disaient au fond il y a 4 ans, c'est formidable, il n'y a aucune échéance électorale nationale en France et en Allemagne sur une période assez longue, donc ça permet d'aller construire des choses pour ensuite aller les soumettre évidemment au vote des peuples respectifs. Ça ne s'est pas produit, d'où évidemment ma prudence. Je pense effectivement que de toute façon, après le vote des Britanniques le 23 juin, il y aura des besoins de clarification très forts, sans quoi on assistera à un délitement mou, insidieux du projet européen, mais il aura lieu, et ce sera la responsabilité de Merkel et de Hollande.
Il existe déjà, le
délitement mou. Mais comment on peut l'arrêter? Il y a des choses très concrètes qu'on peut faire. Moi, je suis convaincu que, par exemple, aujourd'hui, il faudrait pouvoir agir pour les universités européennes. Il faudrait pouvoir faire qu'Erasmus, qui ne concerne qu'un pour cent des étudiants, concerne 10, 15, 20, 30% des étudiants demain. Donc, l'élargir, provoquer systématiquement de la mobilité au sein de l'Europe. Vous savez qu'un des problèmes de la France, c'est qu'on y parle très mal l'anglais. Mais c'est un point, mais on parle de plus en plus d'une assurance chômage au niveau européen, où il y aurait un échange à la fois parce que contribuerait au budget de cette assurance chômage les pays les plus riches, mais en échange de réformes sur le marché du travail, des pays les moins bien dotés ou des pays les plus en difficulté.
Mais ce que vous ne dites pas, c'est que vous espérez, que ce soit pour Erasmus ou pour l'assurance chômage, en gros vous espérez que l'Allemagne paye. Or l'Allemagne, elle vous dit pour l'instant, Vous rêvez, vous payera pas plus.
J'espère que Gagmagne paye. Gagmagne paiera est un vieux slogan français qui a assez peu marché dans l'histoire. Non, je crois qu'il y a deux choses. Il faut qu'à la fois Gagmagne soit solidaire parce qu'elle est aujourd'hui dans une situation où son économie, et c'est heureux pour elle, mais dégage des excédents qui, dans une zone monétaire comme la zone euro, sont considérables. C'est 8 points de PIB à l'échelle des Allemands. Donc, pardon d'être un peu technique, mais on est face à des excédents qui, aujourd'hui, provoquent des déséquilibres dans la zone euro.
Et pour l'instant, elle partage pas l'Allemagne.
Oui, mais parce qu'elle voit les Français ne pas bouger. Et ce qui au fond, fait mal aux Allemands, quand on a beaucoup discuté avec eux pour élaborer cette note, c'est qu'ils ont le sentiment d'être face à un État dirigiste et mal dirigé. Et ils aimeraient évidemment que la France se réforme davantage et incarne davantage l'idée qu'ils se font la prospérité.
Bon, alors on peut consulter depuis ce matin donc ce rapport de l'Institut Montaigne sur le Brexit. Laurent Bigorne, vous êtes directeur de cet Institut Montaigne, think tank d'inspiration libérale. Vous êtes aussi l'un des proches soutiens d'Emmanuel Macron.
Je suis un de ses proches amis.
Proches amis, soutien. L'association En Marche est toujours domiciliée chez vous ?
Non. Ah. Non, elle a cessé de l'être le jour où il a lancé officiellement son mouvement, mais je le faisais à titre tout à fait privé.
Laurent Bigorne, je me suis demandé ce week-end, le PS qui acte le principe de primaire à gauche, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour, ou une mauvaise pour Emmanuel Macron ?
Bon, écoutez, ça, il faudra demander à Emmanuel Macron. Nous, on a travaillé à l'Institut Montaigne sur les primaires. On avait réclamé deux choses. La première chose, c'est qu'on avait expliqué qu'un président de parti devait démissionner au moins 6 mois avant la primaire de ses responsabilités, donc vous voyez qui je vise.
Nicolas Sarkozy.
Exactement, et on expliquait par ailleurs qu'il nous semblait problématique, on a fait cette note avec Olivier Duhamel, c'est même un livre qui s'appelle « Les primaires pour les nuls », pardon pour la pub, mais on expliquait qu'il nous paraissait difficile, compte tenu de la popularité des primaires dans l'opinion, que le président sortant ne se soumette pas à une forme de primaire. C'est d'ailleurs le cas, par exemple, dans un pays comme les États-Unis.
Donc vous êtes rassuré, François Hollande y va, est-ce que Emmanuel Macron pourrait être candidat à ces primaires de gauche, selon vous ?
Écoutez, ça, il faudra vraiment lui demander. Je pense que ce qu'il souhaite faire pour l'instant avec son mouvement politique, c'est d'animer le débat. Donc, il y a des questions de personnes et vous avez raison de les poser. Je ne vais pas vous dire, moi, ici, qu'elles ne sont pas importantes. Elles sont primordiales.
Mais
je pense
Emmanuel Macron, candidat aux primaires de gauche, ce serait imaginable ?
Je ne sais pas, tout est imaginable ce matin. D'où
même
je vous parle.
Emmanuel Macron, candidat aux primaires de la droite, par exemple, c'est imaginable.
Ce qui me paraît, encore une fois, il fait partie d'un gouvernement de gauche, donc il sera dans une forme de cohérence, il l'a toujours dit, me semble-t-il. Ce qui me semble-t-il est le plus important, c'est que des idées, pour l'instant, qui sont inaudibles, aussi bien d'ailleurs dans les primaires de droite que dans d'éventuelles primaires de gauche, puissent surnager, et je pense que c'est son souhait.
Il a perdu 12 points en un mois, 12 points de popularité en un mois. Il est en marche ou en marche arrière, là ?
Écoutez, alors moi vraiment, je suis patron d'un think tank, et je dois dire qu'il y a une chose que je regarde assez peu, c'est les sondages d'opinion, pour être honnête avec vous, parce que je pense qu'ils sont à la fois d'assez mauvais reflets de ce qu'on peut anticiper. On verra qui avait raison, des Brexiteurs ou des Remainers en Grande-Bretagne dans 4 jours.
Ils se trompent souvent.
Hein. Et donc, on ne peut pas faire de la politique en ayant seulement le regard fixé sur des sondages ou des enquêtes d'opinion semaine après semaine.
Laurent Bigorne était notre invité. Très belle journée à vous.